Vous êtes bien à l'écoute de RFI, les 22h à Paris, 21h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Aux États-Unis, le suspect de l'attaque de la Nouvelle-Orléans est un Américain de 42 ans, résident au Texas. Il avait publié, juste avant l'attaque, plusieurs vidéos dans lesquelles il indiquait soutenir l'organisation État islamique. Le FBI a donné une conférence de presse aujourd'hui. La présidente du Honduras menace les États-Unis de fermer les bases américaines présentes sur son sol si le président américain élu, Donald Trump, met en œuvre sa promesse d'expulser des milliers de migrants illégaux. Les forces de sécurité syriennes ont lancé une grande opération de ratissage à Homs, dans le centre du pays, dans les quartiers de la minorité alaouite dont est issu Bachar al-Assad. Elle traque les milices de l'ex-président qui n'aurait pas rendu les armes. Et puis la France bat son record d'exportation d'électricité en 2024. L'électricité française figure parmi les moins chères du continent européen, grâce notamment aux centrales nucléaires. Aux États-Unis, l'auteur de l'attaque à la Nouvelle-Orléans a agi seul, selon les enquêteurs du FBI, qui ont donné une conférence de presse aujourd'hui. David Thompson, selon l'organisation, le tueur présumé aurait agi au nom du groupe État islamique.
Aucune autre personne impliquée dans cette attaque en dehors de son auteur présumé, Shamsuddin Jabbar, c'est ce qu'annonce Christopher Raya, un des dirigeants du FBI, en conférence de presse. Le FBI qui confirme la nature terroriste de cette attaque. Selon la police fédérale américaine, c'est bien un djihadiste qui a projeté son pick-up dans la foule et fait 14 morts dans le cœur historique de la Nouvelle-Orléans la nuit du réveillon. Sur son compte Facebook, 5 vidéos ont été retrouvées par les enquêteurs, des vidéos enregistrées la veille de la tuerie dans lesquelles Din Jabbar prête allégeance au groupe État islamique. Il parle de guerre contre les infidèles et explique qu'il voulait d'abord s'en prendre à sa famille et à ses amis le soir de l'attaque. L'homme arborait d'ailleurs un drapeau de l'EI à l'arrière de son pick-up dans lequel deux bombes artisanales ont été retrouvées. Autre information importante annoncée lors de cette conférence de presse, à ce stade le FBI ne trouve pas de lien irréfutable entre cet attentat de la Nouvelle-Orléans et l'explosion du Cybertruck de Tesla devant la tour Trump de Las Vegas. Explosion survenue le même soir à quelques heures d'intervalle. David Thompson, Miami, RFI.
Et justement, le suspect dans cette explosion à Las Vegas est un militaire également, mais ses motivations restent inconnues pour le moment. Les médias américains ont révélé son nom. Hier, il s'appelle Matthew Livelsberger, il a 37 ans et il était donc soldat en permission, mais en poste en Allemagne. Les États-Unis, où Donald Trump sera investi président le 20 janvier prochain, avant même son installation à la Maison-Blanche, le chef de l'État élu a promis d'expulser de force des migrants arrivés illégalement sur son territoire. Une menace à laquelle a répondu la présidente du Honduras dans ses vœux pour la nouvelle année. Xiomara Castro a menacé de fermer les bases militaires américaines présentes sur son sol si Donald Trump mettait à exécution sa promesse. Suzanne Marion, si la mesure était mise en œuvre, ce serait un coup dur pour les quelques 2 millions de Honduriens installés aux États-Unis.
Si ces expulsions massives sont mises en œuvre, elles pourraient concerner 250 000 Honduriens, selon les autorités du pays d'Amérique centrale. Des immigrés qui contribuent au développement de l'économie du Honduras, mais aussi à celle des États-Unis, comme le rappelle la présidente Xiomara Castro.
Nuestros migrantes, que por norma...
Nos migrants apportent généralement une grande contribution à l'économie américaine. Face à l'hypothèse d'une expulsion massive de notre peuple, nous devrions envisager un changement dans nos politiques de coopération avec les États-Unis.
Xiomara Castro, qui dit espérer un dialogue constructif et amical avec la future administration Trump, menace donc à mot couvert.
Ils ont maintenu des bases sur notre territoire sans payer un centime pendant des décennies. En cas d'attitude hostile, ces bases pourraient perdre toute raison d'être pour le Honduras.
Environ 1000 ressortissants américains, civils et militaires, vivent sur la base José Enrique Sotocano, construite en 1982 dans le centre du Honduras. Elle joue un rôle clé dans le commandement sud des États-Unis, utilisé pour des opérations de lutte contre le crime organisé ou de déploiement d'aide humanitaire.
Au Mexique, 5 personnes ont été retrouvées mortes dans l'état du Sinaloa, victimes d'un conflit armé entre deux factions d'un puissant cartel de drogue. 2 autres personnes ont aussi été tuées dans l'état de Guanajuato, le plus violent du pays depuis le début de l'année. C'est donc une année particulièrement meurtrière au Mexique. RFI, minuit à Damas et Homs en Syrie, 3 semaines après la chute de Bachar al-Assad, les nouvelles autorités traquent des combattants et responsables de l'ancien régime. Julien Chavanne, les forces de sécurité ont investi la ville de Homs.
C'est une véritable opération de ratissage que les forces de sécurité ont lancée dans cette ville du centre de la Syrie. Les habitants sont appelés à rester chez eux. Un couvre-feu a été instauré. Des forces d'infanterie et des blindés sont déployés. Le raid vise des criminels de guerre, selon une source sécuritaire. Les autorités affirment que des milices de Bachar al-Assad seraient cachées à Homs. Mais d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il s'agit plutôt d'une opération de représailles contre la minorité alaouite, une branche minoritaire de l'islam chiite, dont est issu le président renversé Bachar al-Assad. La semaine dernière, des milliers de personnes avaient manifesté après la diffusion d'une vidéo non vérifiée montrant une attaque contre un sanctuaire alaouite dans le nord du pays. Un manifestant avait été tué et 5 autres blessés à Homs par les forces de sécurité, selon l'OSDH. La violation des foyers et les menaces de mort à caractère sectaire à Homs menacent l'unité de la Syrie, a prévenu sur Facebook Mouna Ghanem, une ex-opposante du régime renversé.
Julien Chavanne, l'armée israélienne confirme avoir mené un raid en septembre contre une usine souterraine de missiles en Syrie. L'opération a mobilisé plus de 100 soldats. À l'époque, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG basée à Londres, avait fait état de 27 morts. En Israël, l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, quitte son poste de député. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou l'avait limogé il y a 2 mois sur fond de désaccord sur la question des otages détenus à Gaza et surtout à cause de divergences sur l'incorporation des juifs ultra-orthodoxes dans l'armée, des hommes qui étaient jusqu'ici exemptés de service militaire. L'autorité palestinienne, elle, suspend la diffusion d'Al Jazeera dans les territoires palestiniens. Elle accuse la chaîne d'incitation à la sédition et d'ingérence. C'est la couverture des affrontements qui ont eu lieu dans le nord de la Cisjordanie qui a provoqué la colère de l'autorité palestinienne. Ses forces de sécurité mènent à Jenin des opérations contre des groupes armés liés au Hamas ou au djihad palestinien. Ces affrontements ont fait des dizaines de morts. Al Jazeera dénonce de son côté une tentative de masquer la réalité et une campagne d'intimidation visant ses journalistes. En mai dernier, c'est Israël qui interdisait la diffusion de la chaîne qatarienne. RFI. En Corée du Sud, le président déchu, menacé d'arrestation et retranché dans sa résidence, Yoon Suk-yeol, a promis de se battre jusqu'à la fin contre les autorités qui cherchent à l'interroger sur sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Devant sa résidence, des centaines de partisans de l'ex-chef d'État sont venus le soutenir. Ils font face à la police anti-émeute, mais aussi à des opposants à Yoon Suk-yeol qui manifestent, eux, disent-ils, pour défendre la démocratie. RFI, 22h08 à Paris. En France, les bonnes nouvelles pour l'économie sont suffisamment rares pour être soulignées. Le pays a battu son record d'exportation d'électricité en 2024 avec 89 TWh exportés vers les voisins européens, en majorité en Allemagne et au Royaume-Uni. Un succès dû en partie à une électricité parmi les moins chères du continent européen, Anne Verdaguer.
La reprise de la production du parc nucléaire français l'an passé a donné un coup de pouce à l'exportation d'une électricité devenue très attractive. Le raccordement au réseau de l'EPR de Flamanville en décembre permettra de confirmer cette tendance dans les prochains mois. Une électricité française bas carbone, abondante ou presque, mais surtout peu chère et très compétitive sur les marchés européens. Le prix du kilowattheure est 7 fois moins élevé qu'en 2022 lors de la crise énergétique européenne et les Français payent aujourd'hui leur électricité en moyenne 20% moins chère que les Allemands. L'Allemagne, qui est d'ailleurs la première importatrice de l'électricité française, avec la Belgique, viennent ensuite l'Italie, le Royaume-Uni et la Suisse. Dans la balance commerciale, ces exportations apportent un bol d'air bienvenu. Les bénéfices se comptent en milliards d'euros pour l'Hexagone, mais ils sont très loin de compenser les coûts de l'importation de gaz et de pétrole, qui représentent, selon les derniers chiffres de 2023, 74 milliards d'euros de dépenses par an, une somme colossale au regard des 4 milliards d'euros de gains pour les exportations d'électricité.
Agnès, Anne Verdaguet, pardon, du service économie de RFI. Agnès Skeletti s'est éteint à l'âge de 103 ans. C'était la plus ancienne championne olympique au monde, gymnaste hongroise, quintuple médaillée d'or olympique. Elle a eu une vie extraordinaire, marquée par la Shoah et sa vie derrière le rideau de fer.